On va continuer notre série. Donc on en est au Proverbe 27 et on va voir juste quelques versets. Et on s'arrêtera plus particulièrement sur un. Donc voilà. Donc au Proverbe 27, je ne vais pas vous lire tout le chapitre. On va quand même lire le premier verset parce que c'est assez intéressant. Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Juste la chose qui est intéressante avec ça, c'est que si c'est écrit, c'est que ça part de l'idée que ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, on va dire. Et si ce n'est pas une évidence pour tout le monde, ça veut dire que l'homme impie, sans Dieu, ben peut-être qu'il fonctionne à l'inverse de ça. C'est-à-dire on peut se vanter du lendemain parce que finalement, on croit qu'on maîtrise ce qui va se passer demain. Ce matin, l'évangélisation. On a parlé à deux petits jeunes, un petit gars et une petite fille, et enfin, une petite fille, pas une petite fille, mais un petit gars et une petite gâte, quoi. Et leur manière de voir la vie, c'était en fait, en résumé, tout va bien aujourd'hui, donc tout ira bien demain, donc j'ai mon mode opératoire pour les siècles à venir, quoi. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Et donc c'est intéressant parce que finalement, oui, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et les gens fonctionnent comme s'ils savaient ce que demain va enfanter. Alors que finalement, fonctionner comme ils disent, ce que je disais à François, ben, il suffit que demain il y ait une guerre, ben, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Tu es jeune, beau, en forme, tu as des amis, tu veux faire tel boulot, tu as tel navire. Ben oui, ben, demain c'est la guerre, c'est plus tout la même chose. Tout change et etc. Et on va même pas développer tout ce qui peut se passer. Verset 2, pas être long non plus, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que à cause d'un déficit dans notre cœur, d'un déficit spirituel qui fait que nous recherchons Dieu, ben, en fait, on recherche de la spiritualité, on recherche de la spiritualité dans n'importe quoi. Et du coup, on cherche à être accepté parce que on ne vit pas le fait que nous sommes acceptés par Dieu. Et donc, les non-croyants, d'autant plus, ne vivent pas l'acceptation de Dieu, ne se savent pas acceptés par Dieu et n'y croient pas d'ailleurs. Et du coup, ils ont besoin vous savez, c'est comme là, il va y avoir les élections. Les différents candidats ont besoin de rassembler des suffrages auprès des différents maires pour pouvoir se présenter. Et ensuite, pour être élu, eh bien, il faut qu'il rassemble des suffrages auprès des électeurs, tout simplement. Eh bien, l'homme sans Dieu, ou l'homme ou la femme, peu importe, il fait la même chose. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres, ben là, c'est l'inverse. C'est toi qui te loues parce que tu as quelque chose à vendre et parce que tu as besoin de recevoir de l'approbation. Et c'est légitime dans le sens que le besoin est réel, mais la manière de le réaliser, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme il est dit dans Jacques et à un ou deux autres endroits. Jésus dit la même chose d'ailleurs. Va t'asseoir en gros au fond de la salle. Et si on te demande de t'asseoir un peu plus en avant, tu seras honoré. Alors que si tu viens au premier rang alors qu'on ne t'a rien demandé, quand on va te dire, tu sais, c'est la place d'un autre, tu vas aller au fond. Ben, tu vas avoir la honte, quoi, en fait, tout simplement. Et de manière ultime, ben, ce monde, c'est ça. Il essaye de prendre la première place, mais ben, un jour, il va se retrouver, même pas simplement au fond de la salle, même en dehors de la salle, en fait. Il n'y aura même plus de salle, d'ailleurs. Tout simplement. Mais sinon, voilà, pour nous, juste de savoir que c'est, comme je l'avais dit il y a quelques semaines, c'est aux autres, je dirais, à approuver notre ministère, entre guillemets, ou nos dons, ou notre appel, ou ceci ou cela. Et je ne parle pas que de partager la parole de Dieu, ou de chanter. Je parle aussi de dons de service, de donner, un don d'amabilité, d'un don etc., de générosité. Pas simplement, juste, il y a deux dons, ben, vous prêchez ou vous chantez, et puis le reste, ça n'existe pas. Don de prier, de jeûner peut-être. Etc., de servir, et c'est aux autres à tester cela, et c'est pas à nous à présenter notre carte de visite parce que nous serions des démarcheurs qui avons quelque chose à vendre. Nous n'avons rien à vendre. Nous n'avons rien à vendre. Alors ensuite, Juste, je vous lis le verset 3 parce que je trouve ça rigolo. Et ensuite, je vais rentrer dans les quelques versets où je voulais m'arrêter peut-être un chouïa plus. Enfin, surtout, when. Ça ne sera pas un chouïa, ça sera un gros chouïa. Donc, le verset 3, c'est assez rigolo. Pardon. La pierre est pesante et le sable est lourd. Mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Donc, je trouve ça assez amusant de voir que. Voilà, que l'insensé, un peu comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, le chapitre 26, c'est, comme on dit par ici, c'est vraiment un boucan. C'est vraiment le boucan, quoi. Je veux dire, celui qui est insensé, c'est un boucan pour tous ceux qui sont autour, quoi. C'est vraiment la source de problème, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est voilà, c'est tout ça. Mais en fait, l'homme sans Dieu, c'est ça. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein. Il pense qu'il est dans la jungle, il pense que ce monde, c'est la jungle, donc c'est bon, il peut avancer, les arbres vont résister, et puis en fait, ce n'est pas la jungle, c'est un magasin de porcelaine, et tu passes ta vie à tout casser autour de toi, et te dis, ah, c'est drôle, je me fais mal, ah, j'ai une entaille ici, ah, c'est drôle, les gens, ils m'auront de travers, ben, c'est sûr, à chaque fois que tu fais un pas, tu causes des dommages, donc forcément, ça aide pas non plus en termes de relations, et autres. C'est ouais, un peu une image un peu rigolote, mais c'est quand même un peu ça. Alors ensuite, je trouve une chose intéressante au verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Et j'ai trouvé une chose intéressante là-dedans, c'est qu'en fait, on pourrait se dire, bon, la fureur, c'est quand même un gros problème, et je ne vois pas trop comment est-ce qu'on le gère, même si dans la Bible, il nous est dit que celui qui ne met pas d'huile sur le feu, justement, va apaiser la colère, la dissension, etc. Néanmoins, bon, voilà, la fureur est cruelle, ok. La colère est impétueuse, donc c'est, ok, c'est un gros problème là aussi. Ça bouge pas mal et on ne gère pas grand-chose. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a dit, mais qui résistera devant la jalousie? Et ça semble sous-entendre que la jalousie est quelque part encore plus terrible que la fureur et la colère. Alors que moi, j'aurais mis tout le monde dans le même sac. Voilà, c'est trois problèmes compliqués à gérer et qui produisent des dégâts. Et c'est tout. Et en fait, c'est intéressant de voir que la jalousie est mise un petit peu au-dessus des autres parce que finalement, la réflexion que j'ai eue, c'est de se dire que la fureur et la colère, c'est souvent, enfin, c'est même en général, oui, non, je dirais que c'est tout le temps le cas. C'est une réaction à un événement. Je suis en colère parce qu'il s'est passé quelque chose. Je suis furieux parce qu'on m'a fait quelque chose. Mais la jalousie, ça sous-entendrait que. Alors, il peut y avoir effectivement des événements qui suscitent la jalousie, mais ça sous-entendrait quand même que la jalousie, c'est supérieur. Et qu'est-ce qui fait que la jalousie peut être supérieure aux deux autres? C'est que la jalousie peut être quelque chose de plus inhérent. J'ai un tempérament jaloux. Et du coup, en fait, je vais susciter peut-être les situations qui n'existent pas par mon interprétation. Vous voyez? Et du coup, ça devient encore plus problématique à gérer que la fureur et la colère. Parce que si vous gérez la situation objective qui a suscité la fureur ou la colère, il n'y a plus de fureur ou il n'y a plus de colère. Et il peut y avoir une réconciliation. Vous voyez? Si effectivement, vous ne mettez pas d'huile sur le feu, à un moment donné, ça va s'éteindre. Mais la jalousie, ça c'est autre chose. Que ça soit la jalousie parce qu'on pense que l'autre il m'a trahi ceci cela et que c'est vrai ou c'est pas vrai, donc là en l'occurrence ça peut très bien ne pas être vrai et c'est juste une réaction intrinsèque, ou alors la jalousie, le fait qu'on veut toujours avoir ce que les autres ont, donc une espèce de comment on dit ça, d'ambition qui n'est pas légitime et qui quelque part est mal placée et mal construite. Ça aussi, c'est une autre facette de la jalousie. Et apparemment, enfin, en tout cas, moi, la manière dont je vois que la jalousie peut être supérieure aux deux autres, c'est ça. C'est le fait qu'il y aurait, ça serait plutôt une tare intrinsèque dans la personnalité de la personne, alors que les autres, tout le monde peut être furieux, tout le monde peut être en colère, parce qu'à un moment donné, il se produit quelque chose. Alors qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas un tempérament jaloux. Ils croient naturellement plutôt le bien. Là, dernièrement, au boulot, j'ai une dame âgée de 91, 92 ans qui a toute sa tête. L'autre jour, elle discute avec la coiffeuse et elle dit, Moi, je suis toujours pessimiste et ma sœur, elle est toujours optimiste. Bon, ben voilà, ben, il y en a, ils ont un type de caractère et quelque part, ils ont à gérer avec le caractère qu'ils ont et que le voisin n'a pas, ou les tares que l'autre a moins, et il y en a d'autres, évidemment. Alors, on continue, on reviendra au verset 7, parce que en fait, c'est là où je veux m'arrêter, mais on va juste voir deux autres versets. Oui, assez vite, enfin assez vite, aussi vite que jusqu'à présent, disons. Au verset, pardon, 12, il est dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Et c'est intéressant parce que la manière naturelle dans ce monde de voir un homme qui est sage, qui est prudent, qui est ceci, qui est cela, qui est, on va dire, voilà, qui est en avance sur les autres en termes de réflexion, peut-être d'intelligence et de savoir-faire ou de savoir-vivre, on va dire, même si savoir-vivre, c'est pas forcément exactement ce qui est concerné ici. L'homme prudent voit le mal et se cache. Ben, en fait, naturellement, on a plutôt l'impression que celui qui est, on va dire, fort, c'est celui qui affronte les difficultés. Donc, c'est celui qui va voir le mal et qui va gérer le mal, qui va trouver des solutions au mal, qui va affronter le mal, qui va aller au-delà du mal. Mais ici, il ne nous a pas dit ça. Il nous a dit l'homme prudent, ou si vous voulez, l'homme sage, c'est celui qui voit le mal et se cache. Donc, des fois, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes censés être remplis du Saint-Esprit et parce que Dieu est de notre côté, que nous sommes censés devenir des bulldozers qui allons écraser toutes les difficultés qui sont devant nous. C'est lui qui a aplani les voies devant nous, ce n'est pas nous qui les écrasons. Mais nous, par contre, devant les situations, nous sommes appelés à être prudents, nous sommes appelés à être sages. Et donc, lorsque je vois le mal, je me cache, en général. Pourquoi? Parce que je suis conscient que je n'ai pas les ressources en moi-même, très souvent, de me confronter au mal qui se retrouve devant moi. Et que le mal soit la tentation, que le mal soit une épreuve, que le mal soit des gens qui n'ont pas une attitude correcte, notamment vis-à-vis de moi, ou vis-à-vis de même des autres. Et simplement, je ne vais pas rentrer dans des relations plus avancées avec eux. Donc l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Et là encore, un peu la même idée qu'on a vue au début, avec le premier verset du chapitre. Le simple, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Et celui qui ne connaît pas Dieu, ben, lui, il se prend pour Goldorak et il voit le mal, il avance, il pense qu'il va tout casser. Et puis en fait, la réalité de la vie fait que pourquoi est-ce qu'on est moins optimiste et qu'on est un peu plus aigri quant à cette vie et on a un peu moins, voire beaucoup moins d'espérance et d'enthousiasme quand on arrive vers un âge plus avancé, ben, c'est qu'on a essuyé des plâtres. C'est qu'il y a eu des problèmes dans la vie. Il y a eu des problèmes et qu'on n'a pas toujours su gérer et que nous, on a même suscité des problèmes et que du coup, la réalité, c'est que la vie, elle est compliquée. Elle devient d'autant plus compliquée que moi, j'ai de moins en moins de ressources ou des ressources plus limitées et que je fais en plus des mauvais choix qui suscitent encore des problèmes, etc. Et donc, le simple, ben, ouais, il avance et il se fait mal. Mais sauf que le simple qui ne connaît pas Dieu, ben ça y prend généralement, ça y prend des années pour réaliser que à chaque fois qu'il va s'avancer, il va prendre un coup de bâton quoi en fait, parce qu'il est pas à la hauteur de, il est pas à la hauteur de, comment dire, de gérer cette vie seul. Et du coup, les déboires de cette vie sont là pour nous l'apprendre. Autre chose, verset 17. Ouais, je l'ai écrit ici, c'est ça. Donc verset 17, il dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Alors il y a différentes versions et il y a une autre version qui amène un peu une notion un peu différente et peut-être plus positive, enfin même sûrement plus positive. C'est la traduction français courant, je vais vous la lire parce que c'est intéressant. Le fer aiguise le fer. Et le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. affine l'esprit de l'homme. Et donc je pense que c'est peut-être plus dans ce sens-là qu'il est bon de comprendre ce verset, c'est que le faire aiguise le fer. Ben oui, c'est effectivement, je prends deux couteaux, je prends un couteau et puis une pierre ponce, enfin, ou un autre élément en fer qui permet d'aiguiser. Effectivement, l'un confronté à l'autre, en fait, c'est pas agréable, mais ça produit l'effet qui est prévu, c'est-à-dire d'aiguiser la lame afin qu'elle soit efficace et qu'elle soit efficace pour un but qui est prédéterminé. Et donc, le fer aiguise le fer, et là, c'est la même chose, en fait. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Donc nous sommes appelés à être une lame aiguisée afin d'être utilisée dans la main de Dieu. Et entre autres choses, une chose qui va y travailler, c'est le contact avec autrui. Et là, du coup, je vais rebondir sur mon verset 7 et sur enfin, toutes les choses, oui, les quelque chose que j'ai à dire à cet effet. À moins que je vous parle d'un dernier verset avant, ça dépend comment je le sens, le truc. Il est passé où d'ailleurs? Ah oui. Non, je n'ai pas envie de parler de ce verset. Donc voilà, donc en fait, on va rebondir sur le verset 7. Pourquoi? Parce qu'ici, il nous est dit qu'on arrive à un résultat positif, et surtout au résultat qui est escompté et à une certaine efficacité quelque part. Lorsque donc avec le contact avec l'autrui, et donc l'image qui est donnée, c'est le fer qui aiguise le fer. Hein? Et du coup, voilà, l'idée c'est ça, c'est que c'est pas forcément agréable si on prend cette image-là pour nous en termes de relations et d'individus. Et c'est pour ça qu'on va voir le verset 7. Qui me paraît intéressant, et même pas que intéressant, qui me paraît assez fondamental pour notre vie. Et je pense que c'est bien de réfléchir à voir notre vie un petit peu sous ce spectre-là, parce que je pense qu'on se trompe souvent, en fait, sur la lecture de notre vie, ou la vision ou l'angle que l'on a sur notre vie, et donc, par conséquent, sur celle des autres, évidemment, mais déjà la nôtre, en tout cas. Et donc, il est dit, celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Et là, je vais vous lire quelques versets parallèles, mais chose intéressante, en fait, c'est. La chose qui est intéressante, en fait, c'est. Comment dire Le problème de la première partie du verset, c'est que la personne a déjà mangé. C'est qu'elle a déjà mangé. Et deuxième problème, c'est que la personne n'a pas forcément mangé ce qu'il fallait manger. Là, j'en parle en appliquant spirituellement, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que quand il est dit « celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel », ça sous-entend quelque part que ce rayon de miel, il est proposé, il est offert, il est salutaire et il est voulu. C'est voulu qu'il soit pris, il soit consommé, en fait. Et du coup, c'est un problème que celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel. Prenons les choses autrement. Dieu propose du miel. Et celui qui ne connaît pas Dieu, ou nous qui ne fonctionnons peut-être pas toujours correctement dans notre vie chrétienne, nous sommes rassasiés. Et donc, nous foulons le rayon de miel que Dieu veut nous donner. Donc, ce n'est pas bon. Mais la base du problème, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que je suis rassasié et de quoi je suis rassasié? Vous voyez? Et du coup, je vais vous lire juste un verset que vous connaissez tous, mais ce n'est pas grave. Ça me fait plaisir de vous le dire quand même. C'est en Matthieu 5,6. En Matthieu 5,6, donc c'est le sermon sur la montagne, mais il est dit une chose qui est intéressante. Il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et je vous mets ça en parallèle. Pourquoi? Parce que celui qui est rassasié dans le verset de Proverbe 27, manifestement, ce n'est pas de justice qu'il est rassasié. Il est rassasié d'autre chose qui fait que quand Dieu lui propose du miel, quand Dieu lui propose du miel, ben, il le foule au pied. Et nous, dans notre vie, c'est pareil. Mais le problème, ce n'est pas que je foule au pied ce que Dieu me donne. Le problème, il est en amont. Le problème, il est de quoi est-ce que je me nourris? Le problème, il est de quoi je me nourris et pourquoi est-ce que j'attends pas, je dirais, la nourriture de Dieu? Pourquoi je l'attends pas? Ben parce que dans ma vie, il y a des besoins, il y a des problèmes, il y a des impasses, il y a des choses difficiles à gérer. Et face à ça, alors ces choses difficiles à gérer, les impasses, etc., ça peut être des épreuves que je ne supporte pas, ça peut être des tentations auxquelles je ne résiste pas, ça peut être des gens que je ne supporte pas, ça peut être un trait de caractère en moi que je ne supporte plus. Ça peut être, voilà, ce que vous voulez, ça peut être des événements simplement qui arrivent dans la vie. Ça peut être tout ça. Et donc, le problème, il est que face à ça, j'ai le sentiment d'avoir besoin de me nourrir. De me nourrir. J'ai un sentiment de faim. Et le problème, c'est que si... on va dire, en premier, avant tout, je n'ai pas faim et soif de la justice de Dieu, je vais me nourrir avec autre chose qui fait que je ne recevrai pas la nourriture que Dieu va me donner. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la deuxième partie du verset, parce que la deuxième partie du verset, elle dit « Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer ». Et ça, c'est le plus grand enseignement pour notre vie. Première chose, c'est qu'est-ce que je mange? Et en fait, face aux problématiques que je vous ai présentées en amont, où j'ai dit que je réalise que j'ai faim et du coup, je suis trop court par rapport à cela et je vais en fait essayer de gérer tous ces problèmes et me nourrir intérieurement en fait en péchant, tout simplement, donc en ne résistant pas à la tentation, en trouvant des subterfuges charnels dans l'épreuve, enfin bref, peu importe, etc., en me mettant en colère, en utilisant des moyens qui ne sont pas spirituels pour régler des problèmes qui sont réels devant moi. Donc là, je ne me nourris pas bien, mais la chose, il est dit à la deuxième partie, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. En fait, si j'ai faim et soif de justice, non seulement je vais manger le miel quand Dieu va me le donner, alors que si je me nourris autrement, je me nourris sans Dieu, je me débrouille tout seul dans ma vie pour combler les vides qu'il y a dans mon cœur, en fait, dans mon âme, là je ne mangerai pas le miel que Dieu veut me donner. Mais il y a une deuxième chose, c'est l'étage supérieur. L'étage supérieur, c'est celui qui a faim, trouve doux tout ce qui est amer. Et si vous voulez, je vais donner un titre au message de ce soir, même si on a vu différentes autres choses au préalable, et même si on a essayé d'arriver à ce point-là. Je dirais le doux et l'amer. Le doux et l'amer. Ce que je veux dire par là, c'est que ce verset-là, il ne dit pas que Dieu va vous donner uniquement du miel. Il dit que si tu es rassasié, tu ne mangeras pas le miel, les bonnes choses que Dieu veut te donner. Mais il dit une autre chose. Il dit que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Et le terme amer, il se retrouve à quelques deux autres endroits dans la Bible, mais il y a juste un autre endroit où c'est intéressant, ce terme amer. Ce n'est pas le terme en lui-même qui est intéressant, c'est le verset qui est donné. C'est en Apocalypse, chapitre 10, verset 9. Parce qu'en Apocalypse 10, verset 9, il a encore parlé de manger, il est parlé d'amertume. Et c'est quand même intéressant de relier tout cela, en fait, de relier la faim et la soif de justice, ce verset de Proverbes 27,7 et Apocalypse 10, verset 9, pardon, il est dit au verset 8, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tienne debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. » Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Nous avons la douceur du miel, comme il est parlé en Proverbe 27, et nous avons l'amertume dont il est parlé également dans le verset 7 de Proverbe 27. Et ce que je veux vous dire, et ce que peut-être nous loupons malheureusement trop souvent dans notre vie, c'est comment dire, le repas quotidien ou régulier, on va dire, que Dieu nous propose, ce n'est pas que du miel. Ce n'est pas que, alors voilà, vous allez me dire, oui, mais Dieu a dit aux Hébreux qu'il va leur donner la terre promise, ça sera une terre où coule le lait et le miel. Donc, des choses abondantes et faciles, d'une certaine manière. Mais ça, c'est une chose. Mais nous, ici, ça nous parle à nous, à l'individu, là. Et ça dit une chose, ça dit que Dieu veut nous donner du miel, mais que Dieu va aussi donner des choses amères, des fois. Mais ce qui est beau, c'est que si j'ai faim et soif de la justice de Dieu, et moi, une fois, j'avais fait une étude biblique avec vous où j'avais mis en opposition la justice de Dieu et l'équité de l'homme. Et en fait, on se fourvoie des fois. On croit poursuivre la justice de Dieu, mais en fait, nous cherchons l'équité dans ce monde. Et ça ne fonctionne pas. Parce que ce monde n'est pas équitable, parce que les gens ne sont pas équitables avec vous. Vous n'êtes pas équitable avec eux. Mais par contre, Dieu n'est pas équitable avec vous non plus. Vous savez que Dieu n'est pas équitable avec vous. Il n'est pas équitable. Il y en a qui ont beaucoup de dons, il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Il y en a qui reçoivent beaucoup, il y en a qui reçoivent peu. Ce n'est pas équitable. Par contre, tout le monde sera rétribué dans la mesure de sa foi, de son obéissance, de sa confiance et de sa collaboration avec Dieu. Et si vous voulez, ça, c'est la justice de Dieu. Et donc, la chose importante à comprendre, c'est que si j'ai soif, si j'ai faim et soif de justice, le problème, ça ne va pas être est-ce que ce que Dieu va permettre qu'il arrive devant moi et soit doux ou amer, parce que les deux vont arriver. Il va y avoir des choses qui sont douces, il va y avoir du miel, et il faudra le manger. Et il y aura des choses qui seront amères, et il faudra s'en nourrir. Mais comment je vais m'en nourrir? Je vais m'en nourrir en ayant faim et soif de justice, mais de la justice de Dieu. Et en étant rempli par la vision de Dieu sur moi. Donc, je ne cherche pas mon image propre, comme on a vu là dans les premiers versets. Qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu 4, verset 4 et Luc 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, et à partir du moment où j'ai faim de la justice de Dieu et j'ai faim de la présence de Dieu et que je suis nourri par les rémas de Dieu, par toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, si vous voulez, du coup, cela crée une capacité en moi pour que, face aux situations de la vie, je puisse trouver doux ce qui est amer. Parce qu'il y a des choses qui vont être amères. Et en Apocalypse, chapitre 10, ce que je vous ai lu, il mange le petit livre. Le petit livre, c'est la parole de Dieu. Et le petit livre, il va être amer dans les entrailles. Il va être doux au palais. Donc, ça veut dire que quand il rentre dans la bouche, c'est doux. Et une fois qu'il a avalé et qu'il a ingurgité, c'est amer. C'est amer. Et vous savez, quand on se convertit, l'évangile, c'est doux. C'est du miel. En général, quand on se convertit, le début de la vie chrétienne, on fait une grosse généralisation, mais quand même, normalement, c'est un petit peu particulièrement enthousiasmant. C'est du miel. Mais nous sommes des enfants. Que Dieu nourrit avec du lait et qui nourrit presque, comment dire, au-delà presque de nos choix dans un premier temps. Mais rapidement, Dieu veut que nous grandissions. Et à un moment donné, la nourriture, nous allons la chercher. À un moment donné, c'est nous qui allons devoir faire des choix par rapport aux attitudes que nous avons face à la parole de Dieu, face à l'Église, face à ce monde, face à mes péchés, face aux situations de la vie. Et donc, j'ai besoin d'être nourri, ça c'est le manque qui est en moi. Et comment je vais être nourri? Oui, bien sûr, par la parole de Dieu, par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, oui, bien sûr. Mais je vais être nourri aussi dans mon attitude vis-à-vis, je dirais, dans l'attitude que je prends vis-à-vis de la vie qui m'est proposée. Parce que vous savez, ma vie, tout comme la vôtre, c'est effectivement le résultat de choix que j'ai fait, mais pas que. Il y a des choses que je ne maîtrise pas depuis le départ. Il y a des choses qui s'imposent à moi de l'extérieur. Il y a mes choix qui viennent mettre des éléments. Et encore au-dessus de la mêlée, il y a Dieu qui fait ce qu'il veut. Et ma vie, ce n'est pas la même que la vôtre. Et puis c'est tout. Et ça, c'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Mais est-ce que j'ai faim et soif de la justice de Dieu? Et est-ce que lorsque ce qui se présente devant moi est amer, est-ce que j'ai faim de Dieu? Est-ce que ma faim de Dieu fait que je vais le trouver doux? Je ne vais pas dire que c'est du miel, mais je vais trouver doux ce qui est amer. Donc il y a des situations difficiles dans la vie. Même je vais dire, ouais, mais quand même, ça devrait être autrement, c'est pas normal, ceci, cela, je mérite pas ça. Enfin. Et puis, ça peut être plus ou moins légitime, ou des fois complètement légitime, ça dépend. Pas toujours. Voilà. Est-ce que je suis rassasié d'autre chose et du coup, je foule aux pieds ce que Dieu me donne? Ce que Dieu me donne, quelque part, en finalité, c'est du miel. Mais en fait, ce miel qu'il me donne, des fois, c'est quelque chose qui est amer. Et est-ce que moi, mon attitude. Et du coup, ma faim de Dieu va me permettre de trouver doux ce qui est amer. Est-ce que c'est ça qui va se passer en fait? Parce que en fait, je suis appelé à collaborer avec Dieu. Et est-ce que je vais utiliser la vie qui est devant moi pour construire avec Dieu, ou est-ce que je vais en fait utiliser la vie qui est devant moi, ma vie, que je n'ai pas forcément effectivement tout choisi et que je ne maîtrise pas et qui n'est pas forcément comme je voudrais, pour être un prétexte de me disputer, en tout cas intérieurement, avec Dieu. Là, dernièrement, sur mon téléphone, je regardais, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai vu sur YouTube, j'ai vu, je ne les ai pas regardés, ça passait, vous savez, quand vous laissez passer les vidéos, vous enclenchez pas, vous restez dessus. Et vous voyez ce qui se passe, vous avez éventuellement du sous-titrage de ce qui se dit, mais et puis voilà, vous pouvez voir là, bon, quand c'est un chat, un chien, c'est rigolo, puis quand c'est autre chose, vous ne comprenez pas tout. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu deux, trois vidéos qui me sont tombées là dernièrement, des femmes sans bras. Des femmes sans bras. Je pense qu'elles sont nées comme ça. Et notamment une, elle avait un enfant. Et l'enfant, il est dans. Bon, l'enfant est déjà un petit peu grand. Il est dans son lit, il est dans son berceau, et là tu te dis, l'enfant il est là avec ses deux bras, agiter ses deux bras pour qu'elle le prenne dans ses bras, mais elle n'a pas de bras. Et donc tu te dis, bon ben ça c'est l'amertume et ça j'en veux pas. Et face à ça, je dis, c'est pas juste, c'est pas équitable, c'est pas normal, c'est dégueulasse, c'est ce que vous voulez, peu importe, voilà. Et puis la suite de la vidéo, c'est que la mère, en fait, elle arrive à prendre son enfant, mais pas dans les bras. Elle se penche, l'enfant le prend par le cou, elle arrive à le soulever comme ça, le tenir contre elle, enfin bref, elle s'arrange. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle s'arrange avec ce qui lui manque. Et il y a des choses dans la vie qui sont amères parce que ce sont des manques que Dieu permet. Et est-ce que je vais m'arranger de ces manques en me nourrissant de Dieu parce que j'ai faim de Dieu et pas parce qu'il faut se nourrir, parce que j'ai faim de Dieu. Parce qu'au fond de moi, je suis converti et au fond de moi, j'ai faim de Dieu plus que du confort, plus que de l'argent, plus que des relations avec les gens, plus que du fait que l'autre, il parle bien de moi ou même simplement, il veut me parler ou je sais pas quoi. C'est cette faim qui est importante. Et du coup, voilà, je vous dis juste cette vidéo, juste pour vous dire que on aurait pu arrêter la vidéo là au bout de quelques secondes et puis dire c'est horrible, quoi. C'est horrible, c'est terrible, il n'y a pas d'issue, c'est nul, ça n'a pas de sens. Et quelque part, c'est un peu vrai. Mais non, on continue la vidéo et la personne, ben, avec la vie qu'elle a, elle s'en arrange. Et nous, spirituellement, avec la vie que Dieu permet que nous ayons, et où ce n'est pas toujours du miel, des fois c'est de l'amertume, est-ce que je m'en arrange grâce à cette faim que j'ai de justice de Dieu, grâce à cette faim que j'ai de la présence de Dieu? Parce que si j'ai cette faim de justice et de présence de Dieu, en fait, si Dieu permet de l'amertume dans ma vie, c'est qu'il y a un point de rendez-vous dans cette amertume. Et dans ce point de rendez-vous, si vous voulez, je vais découvrir que je vais trouver doux ce qui est amer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais je pense que oui, moi c'est le cas. Il y a des choses que j'ai vécues, je n'ai pas envie de les revivre. Et en même temps, j'ai une forme de bon souvenir de ce qui s'est passé. Donc, pas forcément des situations où vous avez envie qui se réitèrent tout le temps dans votre vie, mais parce que vous avez vécu la chose avec Dieu, parce que vous avez vu Dieu dans le truc, parce que vous avez senti soutenu, etc., vous dites finalement ça a été une bonne chose. Ou alors vous voyez les fruits que ça a apporté dans votre vie, donc vous dites c'est bon, c'est amer, mais en fait c'est doux. Mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de revivre ça. Mais le constat après coup, c'est que c'était amer, mais en fait je l'ai trouvé doux. Et donc, voilà, je vais juste vous laisser ce soir avec quelle est notre fin? Quelle est la fin que j'ai? Parce que Dieu va répondre à ma fin. Si c'est une fin de ce monde ou de la chair ou bref, de tout ce qui est les manquements, alors déjà, je ne serai pas forcément rassasié, mais si je suis rassasié, c'est encore pire. Parce que ça ne va pas me rapprocher de Dieu, en fait. Ça va faire que quand Dieu va intervenir ou va proposer des choses, ben, je serai inapte à le recevoir. Ou alors, est-ce que j'ai faim et soif de justice et par conséquent, je vais trouver doux ce qui est amer. Et voilà, je vous laisse avec cela. Merci.